commence à Paris, au 291 boulevard Raspail, ce long cordon qui relie Saint-Germain-des-Prés à Montparnasse. Nous sommes en 1965, début avril, au Centre National du Cinéma. Un jeune réalisateur, encore inconnu, fait nerveusement les 100 pas pendant qu'on y projette son dernier film, Les Grands Moments. Il se nomme Claude Lelouch, 27 ans. Et pour lui, c'est aussi un grand moment. Car c'est ici, dans ce centre, que se réunit chaque année la commission chargée de choisir les films qui vont représenter la France au prochain Festival de Cannes. À l'époque, en effet, le célèbre festival n'est pas encore indépendant. Ce sont donc les États qui sélectionnent les films, ce qui leur permet d'exercer des pressions diplomatiques sur le jury. Claude Lelouch en est à son 6e film. Et on ne peut pas dire que, jusque-là, il ait brillé sur les écrans. Mais il a déjà un producteur, et non des moindres. Pierre Braunberger, qui est à ses côtés et tente de calmer son stress. Quand commence la projection, Lelouch croise les doigts, fumant cigarette sur cigarette. Il attend le verdict. Nous sommes le 23 mai 1965. Il est 21h15, et c'est l'heure H de notre histoire. Projection à peine terminée, un membre de la commission appelle Braunberger. Comment avez-vous le culot de nous envoyer une merde pareille? Toute l'équipe de la commission a détesté. Lelouch s'écroule, chaos debout. Il a l'impression de vivre sa fin de carrière dans le 7e art. Il est atterré. Son producteur aussi. Passé minuit, Braunberger l'entraîne dans un bistrot encore ouvert. Il pleut pour ne rien gâcher. Lelouch est blême, comme les lumières. Lui qui a mis tant de lui-même dans ce film, se voir ainsi mis au rebut. Et Pierre Braunberger en rajoute. Bon, vous savez, Claude, maintenant il faudra au moins une bonne dizaine d'années pour faire oublier ce film. Il le prend par les épaules. C'est pas la fin du monde, ajoute-t-il. Si, répond Lelouch, qui commande un cava pour tenir le coup. Il sent que Braunberger l'abandonne. Le monde du cinéma est un cirque cruel. Dans cette nuit parisienne d'avril, Lelouch se retrouve donc seul. Du bistrot, il téléphone à sa compagne de l'époque, Jeannine Magnan. Écoute, je vais pas rentrer cette nuit. J'ai de gros soucis avec le montage du film. Va dormir. Dehors, la pluie a cessé, mais pas sa détresse. Tout ça ressemble à un mauvais film. Sa dernière réalisation refusée, lui-même bafouée, Lelouch se retrouve comme un paria avec l'impression d'être seul contre tous. Pourtant, d'habitude, il est pugnace. Il sait se battre. Mais ici, on s'en est trop. Jusqu'à présent, il a aligné les échecs. Cette fois, il se ramasse comme un boxeur blessé. Une nouvelle fois, il ne peut compter que sur lui-même. Le cinéma, il ne l'ignore pas, c'est d'abord une histoire de fric. Or, Lelouch n'a plus rien. Il n'a même plus rien à perdre, puisqu'il a tout perdu. Il est à deux doigts de déposer le bilan de sa société, les films 13. Son producteur le lâche. À 2h du matin, il est en faillite. La pluie a repris. Il l'écrira plus tard. J'ai subitement eu envie de disparaître. Ce soir-là, si la mort venait frapper à ma porte d'une façon ou d'une autre. Je ne suis pas assez courageux pour me suicider, mais l'idée m'a séduit. Qu'a-t-il encore en poche? Ah oui, c'est clé de voiture. C'est peut-être ça, sa sortie. D'habitude, quand il ne va pas bien, il fonce avec son automobile. Contact, essuie-glace, radio. Ah tiens, du jazz. Ah, ça, il adore. Allez, va pour Take 5 de Dave Brubeck. Ça le consolera peut-être. Il emballe le moteur, s'élance dans le noir total, le noir en lui, le noir de la nuit. Par les tunnels, il est déjà en dehors de Paris. Que prendre comme direction? Perdu dans son brouillard fantôme, il choisit une destination sentimentale, la Normandie. Sa Normandie, celle de sa mère. Celle de ses souvenirs d'enfance. Allez, va pour Deauville. Mais l'autoroute de l'Ouest ne fait encore que 30 km à l'époque. Ils foncent rageusement sur les petites routes de campagne, à tombeau ouvert. Si j'y passe ce soir, pense-t-il, c'est pas grave. Si j'ai un accident après tout, j'ai pas encore d'enfant. Mon couple s'effiloche alors. Il pleut toujours. En roulant, il fait le bilan. C'est vrai, il a sorti 6 ratages. Pas d'excuse. La revue Les Cahiers du Cinéma a même publié ceci. Claude Lelouch, retenez bien ce nom. Vous n'en entendrez plus jamais parler. Un premier long métrage en 1960. Il en a détruit les copies. La vie de château, un an plus tard. Tournage stoppé, faute de crédit. Le propre de l'homme, une semaine dans les salles. Les grands moments ne sortira jamais, jugé insortable. Le reste, ce ne sont que des brouillons de films. C'est d'ailleurs pour une raison purement alimentaire qu'il s'est lancé dans le tournage des Scopitone. Et de ça, il en est fier. Les Scopitone, ce sont ces films qui passent dans les jukebox, les ancêtres des clips vidéo, des chansons mises en image. Rien que des tubes, bien sûr. Il en tourne parfois 3 par jour. Il en a réalisé des centaines. Il appelle ça faire des ménages. C'est là qu'il a appris à filmer rapide, efficace, inventif. À son actif, Diana de Polanka, Dès que le printemps revient de Hugo Frey, L'idole des jeunes de Hallyday, Le jazz et la java de Nougaro, et puis Les chats sauvages, Bardot, Petula Clark, Dalida, Sacha Distel, Sheila, Sylvie Vartan, etc. Bref, à peu près toutes les idoles yéyé. Un véritable hit parade pour Salut les copains. Le tournage de Belle, 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 ah là, il s'en souvient. Ce Claude François l'a marqué. Il l'a filmé dans la neige, en plein cœur du bois de Versailles. Ce mec androgyne était bondissant, bourré d'idées, inépuisable. Lelouch a eu l'impression de rencontrer plus fou que lui. Regardez l'image délicieuse de Françoise Hardy, cette beauté longiligne et timide qui chantait « Tous les garçons et les filles ». Il y avait une balançoire dans le quartier et en a profité pour la cadrer dans le mouvement des balancelles. Elle était belle sous tous les angles. C'était comme une récréation. Bien entendu, comme les autres, elle chantait en playback. Ce qu'il a également appris avec ses Scopitone, c'est la force de la musique couplée à l'image. Il s'en souviendra, si bien sûr. Il persévère dans le cinéma. Il n'en est guère sûr cette nuit. Les souvenirs juvéniles des Scopitone s'effacent très vite avec un coup d'essuie-glace. Claude Lelouch fonce toujours, pied au plancher. Le moral aussi. Passé Honfleur, il pénètre dans sa Normandie. Une véritable bouffée d'enfance. Un bouquet de souvenirs qu'il cueille au passage dans les pinceaux de ses phares. À Aubervilles, c'est le souvenir de son oncle, un personnage haut en couleur, amateur de Calvados. Villers-sur-Mer, c'est la modeste chambre d'hôtel que ses parents louaient pour les vacances. C'était pour le petit Claude la plage, la mer. C'était Deauville, mais en moins cher. Le dimanche, les Lelouch allaient se balader à Deauville. Ils allaient voir les riches, comme ils disaient. Lelouch se souvient surtout de la lumière. De vacances en vacances, a mûri en lui une fascination pour cette lumière, unique en France. Tous les climats en une seule journée. Chaud, soleil, froid, pluie. Ah, ce soleil impressionniste de Normandie. Et cette transparence. Il est 3h du matin quand Lelouch arrive à Deauville. Et il se gare sur ce qu'on nomme ici les planches, face à la mer. Lelouch vient donc de stopper son véhicule devant les planches de Deauville. Il a roulé comme un fol dingue pour fuir sa déception et son désarroi. Il ne peut plus aller plus loin. La mer lui barre la route. Il est épuisé. Cassé par ce qu'il a subi la veille au soir, fatigué par les kilomètres dans la nuit. Il éteint le moteur, s'en mitoufle et s'endort. 3 heures plus tard, il est réveillé par un rayon de soleil qui traverse le pare-brise. 6 heures du matin, il s'étire, ouvre sa portière. On ne peut pas dire qu'il fasse froid. Ça sent les vagues et le large. À gauche, la plage à marée basse est infinie. Elle s'éveille dans la grisaille. Mais à bien y regarder, il discerne trois formes mouvantes. Une jeune femme, un enfant et un chien. L'enfant court, trébuche. Le chien gambade. La femme est une mince silhouette. Elle paraît très belle. Ça, c'est l'homme qui parle. Mais peut-être est-ce grâce à la lumière. Une lumière de peintre. Ça, c'est le cinéaste qui parle. Et il se pose la question. Que fait cette femme sur cette plage à 6 heures du matin? Ça, c'est le scénariste qui s'interroge. Le louche descend sur la plage. Il marche. Marche encore vers eux. Au fur et à mesure qu'il s'approche, une idée lui vient. Imaginez et se raconter ce que cette femme fait là, si tôt, avec un chien et un enfant. Le destin de Lelouch est en route. Il ne prend toutefois pas le temps de marcher jusqu'à cette femme. Il s'arrête à une centaine de mètres d'elle. Il ne saura jamais si elle est belle ou pas. Il ne saura jamais qui elle est. Car en avançant vers cette silhouette, il commence à imaginer une histoire. Il revient soudain sur ses pas, sent qu'il doit écrire l'histoire de cette femme qui déambule sur cette plage de Deauville. C'est évident. Si elle était en couple, elle ne serait pas là toute seule à 6 heures du matin. Ou alors, elle s'est querellée avec son mari ou avec son amant. Où elle l'attend. Peut-être est-elle veuve après tout. Dans sa voiture, il cherche. Pas de papier, pas de stylo. Il y a urgence. Un bistrot, oui, il lui faut un bistrot. À la gare, bah évidemment, bonne idée. Devant la gare de Deauville, il trouve un bistrot déjà ouvert. Il prend un café, demande un bloc de papier, regarde à travers la fenêtre. Le temps change. La pluie recommence, mais la lumière demeure sublime. C'est ce ciel qu'il veut mettre dans son histoire. Pendant 2 heures, il griffonne une histoire toute simple. Ce sera l'ébauche d'un homme et une femme. À quoi tient la vie? À la grisaille de Deauville, à la mer, à une inconnue. Une fois son scénario tracé, il repart vers Paris. Mais pas dans le même état d'esprit qu'à l'aller. Cette fois, il bouillonne, il s'impatiente. Il a une idée géniale. Il veut en parler à son producteur. Quand il rentre chez lui, il lui trouve une tête d'enterrement. Mais Lelouch lui raconte quand même son histoire. « Mais vous allez voir !» s'écrie-t-il. « Elle va nous faire oublier l'échec des beaux moments !» Mais c'est à nouveau la douche froide. Pierre Braunberger lui fait comprendre qu'il n'a nullement envie de produire un nouveau fiasco. Une histoire d'amour? Bon, écoutez, Claude, en ce moment, les histoires d'amour n'intéressent plus personne. Les gens, vous savez ce qu'ils veulent. Voir des polars. Alors, votre histoire d'amour n'a aucun intérêt. Et puis, franchement, elle est nulle. En sortant les épaules basses, Lelouch se répète. Nul, nul. Une histoire nulle. Peut-être que Braunberger a raison. Après tout, dit Lelouch, j'aurais dû être balayeur, comme me le conseillait mon instituteur face à mes résultats scolaires. Il va toutefois consulter un de ses amis avec qui il écrit ses scénarios. Et lui, au moins, trouve son histoire palpitante. Lelouch reprend espoir. Et puis, tout va continuer. Une suite incroyable de petits miracles. Alors que 2 jours auparavant, il se voyait fini ou mort professionnellement, physiquement. Un coup de téléphone va l'encourager. Allô? Allô, monsieur Trintignant? Lui-même. C'est Claude Lelouch à l'appareil. Vous vous souvenez quand nous nous sommes croisés un jour? Vous m'aviez avoué que vous aimeriez tourner avec moi. Exact. Eh bien, j'ai une histoire à vous raconter. Et il lui raconte au téléphone son histoire. L'homme s'appellera Jean-Louis Duroc. C'est un pilote automobile. Elle, Anne Gauthier, travaille dans le cinéma comme script. Ils sont tous les deux veufs. Ils ont connu la mort de près. Elle les hante. cascadeur, le mari d'Anne, a été tué accidentellement, sous ses yeux, lors d'un tournage. Jean-Louis, lui, a été victime d'un très grave accident de course, suivi du suicide de son épouse, qui le croyait perdu. Anne et Jean-Louis se rencontrent par hasard à Deauville, où leurs enfants sont dans la même pension privée. Ils sont attirés l'un vers l'autre, mais Anne vit encore dans la mémoire de son mari, ce qui l'empêche de s'abandonner quand il se retrouve à l'hôtel Normandie. Toute la subtilité du scénario réside dans cette question. L'éclosion d'un nouvel amour est-elle possible quand on est encore hanté par ce genre de souvenirs? Trintignant comprend que ce n'est pas une énième histoire d'amour. Lelouch veut prouver qu'une femme peut être fidèle dans la mort. Fidèle à un souvenir, à une nostalgie. Il veut surtout montrer qu'il est très difficile de retomber amoureux après le décès de l'autre. Quand Anne a perdu son mari, elle en était follement éprise. Mort, il reste au sommet dans ses souvenirs. Pourtant, à un moment du scénario, Lelouch imagine une scène qui ressemble à la vie. Anne envoie à Jean-Louis un télégramme disant « Je vous aime ». C'est la vie qui a gagné. Contrairement à ce que pensent les détracteurs de Lelouch, cette histoire d'un homme et une femme est loin de s'apparenter à une guimauve sentimentale. Il y a de l'émotion, même parfois exacerbée. L'originalité du scénario réside dans le fait qu'il s'agit d'une histoire d'amour entre deux personnes qui ne croient plus en l'amour. Jean-Louis Trintignant trouve l'histoire formidable, simple, épurée. Il lui confirme sa participation. Il est séduit par ses personnages parce qu'ils sont sans artifice. Alors ça y est, Lelouch a son acteur principal. Il lui faut maintenant trouver une actrice à la hauteur de Trintignant. Son ami assistant et son épouse sont très proches de Romy Schneider. Ils organisent une rencontre. Romy s'avère trop actrice aux yeux de Lelouch. Il cherche presque une inconnue, une interprète à laquelle les spectatrices vont pouvoir s'identifier. C'est Trintignant qui propose Anouk Aimée. Il a envie de tourner avec elle. Elle travaille en Italie avec Fellini. Trintignant avertit le réalisateur. C'est une actrice extraordinaire. Mais elle peut être difficile, compliquée. Lelouch va s'en rendre compte. Mais elle a un avantage. Au téléphone, Anouk dit oui tout de suite. Les dieux du cinéma se réveillent. Mais pour tourner un film, il faut des capitaux. Et nous savons où en est le compte en banque de Lelouch. Il réfléchit. Il pourrait demander à ses banquiers de repousser les échéances de ses remboursements. Il ferait alors un tournage qui ne lui coûterait pas trop cher. Il travaillerait avec son équipe réduite. Et il produirait lui-même son film, puisque personne ne veut le faire. Oui, mais il lui faut quand même de la trésorerie pour démarrer. Et là encore, le vent tourne. Son ami assistant a vraiment de bonnes relations. Il connaît Félix Lévitan, le patron du Tour de France, qui veut un petit documentaire pour valoriser l'image de la compétition. Un film pas sur la course, mais sur la France traversée par les coureurs. Lelouch saute sur l'occasion. Il adore le Tour de France. Durant tout le mois de juillet, il suit la course en moto. Et en caméra libre, excellent exercice pour le film qu'il va bientôt tourner. Le court-métrage pour un maillot jaune aura un énorme succès. Et Lelouch a surtout gagné assez pour enclencher le tournage de son « Un homme et une femme ». Il repousse ses traites et va produire son film. Le tournage est prévu pour décembre. 3 semaines, à Deauville, comme il se doit. Là où est née l'histoire, il tournera avec la même équipe que pour les Scopitones et le Tour de France. Lelouch a promis à sa vedette Anouk Aimée d'aller la chercher et de la déposer à l'hôtel Normandie de Deauville. Il roule à l'époque avec la voiture que lui a donnée son producteur de Scopitone, Gérard Cyr, une splendide Mercedes décapotable. Celle-ci servira pour emmener la régie du film, transporter les acteurs, discuter avec eux entre deux prises. Pour l'heure, il conduit sous le charme de la belle actrice. Mais comme à son habitude, il roule très vite. Trop vite. Ce qui indispose sa passagère, qui lui demande de ralentir. Elle le fait toutes les 5 minutes. Parti à 200 à l'heure, on ne peut pas dire qu'il ait séduit l'actrice durant les 2 heures de trajet. Le soir, petit resto avec l'équipe et les deux vedettes. On parle de la première scène du lendemain. Une scène sur un bateau entre deux marées. Pourquoi ? Intervient Anouk. Il y a une scène sur un bateau ? Ah, moi je ne monte jamais sur un bateau. C'est à prendre ou à laisser. Trintignant avait raison. Elle n'est pas facile. Lelouch ne cède pas. Elle non plus. Toute la nuit, ils essaient d'appeler une autre actrice. En vain. Nouveau désarroi. Cette femme est si belle pourtant. Elle est lumineuse. Lelouch murmure à l'oreille de Trintignant. Dis donc, t'avais raison. C'est une chieuse. Mais à 2 heures du matin, la dite chieuse téléphone au cinéaste. Claude, ça a très mal commencé entre nous. Mais faisons quand même un essai demain matin avec le bateau. On tourne une scène et je verrai si ça me plaît. Si cela ne vous plaît pas, on arrête. Si oui, on continue. Et le lendemain matin est magique. Anouk donne tout, se souvient Lelouch. Elle est royale. Je